Dans leur petit promontoire, ils ont une cloche et un téléphone. Ils sonnent la cloche trois fois, décrochent le combiné et appellent la salle des commandes. Son comparse, tétanisé, a déjà compris. L'opérateur en bout de ligne se contente d'un flegmatique « merci » et raccroche la ligne. La chaîne de transmission des ordres est en marche. Laissons Frédéric pour un moment si vous le voulez bien. Le capitaine Smith n'est pas à la barre à ce moment-là. C'est son premier officier. L'homme appelle la salle des machines et là, les avis divergent sur les ordres transmis. Le haut commandement a, semble-t-il, tronqué la vérité. Au lieu du « arrière-toute » qui aurait dû être lancé, les machinistes ne semblent avoir reçu qu'un « stop » et coupent donc tout approvisionnement des moteurs. 37 secondes plus tard, alors que le navire vire de bord, il heurte par tribord le monstre de glace. Fin de l'histoire. Le choc est perçu par le capitaine Smith qui, sortant de sa cabine, remonte 4 à 4 pour comprendre ce qu'il s'est passé. Une collision. Ses premières mesures sont des plus lapidaires. Vérifier que la coque n'est pas endommagée. La plupart des passagers n'a même pas entendu la collision. Frédéric, qui pensait que le mât sur lequel il se trouvait allait tomber, est surpris même de le voir à peine bouger au contact. Le premier officier, qui part à la recherche d'une potentielle fracture de la coque, remonte en rassurant le capitaine. Il n'en a pas trouvé. Mais le vieux loup de mer préfère vérifier deux fois. Il sent que le navire bouge. Et il a raison. À 23h50, l'avant s'est déjà enfoncé de 4 mètres dans l'océan. Smith envoie alors le charpentier en chef réaliser une inspection plus minutieuse et ce dernier découvre en effet une voie d'eau. Sans attendre, le capitaine va chercher l'architecte du navire et tous deux descendent au cœur de la zone sinistrée sans pouvoir y accéder. La salle de triage du courrier est déjà inondée. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. 5 compartiments du navire sont déjà sous l'eau, au moins partiellement. C'est un de trop pour qu'il puisse continuer de flotter. Le Titanic est déjà condamné. Pris de sueur froide, les deux hommes se tiennent par l'épaule et d'une voix blanche, le capitaine demande combien de temps ils peuvent tenir. 2 heures tout au plus, annonce l'architecte. Et c'est tout leur univers. Fait de balles et de caviar en première classe, qui s'écroule tout d'un coup. Fin de tous les espoirs. Reste maintenant à prévenir les passagers et à trouver de l'aide. Le problème des canaux, personne ne l'a encore en tête. À partir de 10h30, dans les airs et sur les ondes, sont envoyés à intervalles réguliers des SOS d'abord. Des fusées de détresse ensuite. Elles fendent l'air, éclairent de leur lueur rouge les visages maintenant inquiets et apeurés. Puis, elles meurent comme elles ont vécu, avec rapidité. Mais personne ne vient. Les dernières fusées seront envoyées à 1h40 du matin. Les derniers SOS radio à 2h17. L'Olympique, le navire jumeau du Titanic, est à plus de 900 km au moment de l'envoi des messages. Impossible d'arriver. Les autres présents autour sont généralement à plus de 200 km. Seul un bâtiment, le Carpathia, se trouve à une petite centaine de kilomètres. Alléluia, vous me direz. Oui, mais non, ce navire est lent. Il est très lent même. Et même s'il bat son record de vitesse cette nuit-là, avec une pointe enregistrée à 18 nœuds, soit un peu plus de 30 km par heure, les glaces et son manque de puissance condamnent d'avance ceux qui ont besoin d'être secourus. L'arrivée des secours est tardive, trop tardive. À bord du vaisseau qui coule, le capitaine décide de réunir l'équipage. Il est 5h. Dans 25 minutes... l'eau se déversera sur le grand escalier via le pont E. Le temps presse. Pour l'instant, la plupart des passagers de la première classe n'ont pas été informés de la situation. Quelques rares exceptions se rendent compte du problème par eux-mêmes. Les classes plus populaires, elles, sont déjà en état d'urgence. L'eau commence à les envahir. L'organisation du sauvetage est répartie entre les deux premiers officiers du navire. Un qui a en charge les canots situés à tribord, l'autre ceux de bâbord. La course contre la montre est enclenchée. Comme il est nécessaire que l'électricité à bord soit maintenue le plus longtemps possible, il faut donc purger les vapeurs d'eau via les cheminées, ce qui produit un bruit assourdissant et met tout le monde en alerte. Les opérateurs radio et les officiers en charge de l'organisation des canaux ne s'entendent plus. Ils parlent par signes. À 00h40, le bruit s'estompe. Depuis un quart d'heure, le capitaine a ordonné qu'on fasse monter à bord des canaux les femmes et les enfants. Dans le même temps, il fait jouer l'orchestre sur le pont supérieur du navire afin d'éviter tout mouvement de panique. Mais le résultat obtenu est tout autre. La plupart des passagers refusent de croire au naufrage imminent et ne veulent pas embarquer. On ne compte que 20 embarcations disponibles qui offrent donc la moitié des places. C'est là que l'inconcevable se produit. Le capitaine et ses officiers commencent à détacher les canots et les faire descendre à la mer, alors qu'ils ne sont remplis qu'au tiers de leur capacité seulement. Le canot numéro 7 est le premier à partir avec 28 passagers embarqués sur les 65 places offertes. C'est tout bonnement hallucinant. 1h15 du matin, les derniers passagers incrédules se décident à partir alors que l'eau atteint maintenant la proue du navire et noie les chaussures et le bas des pantalons. L'orchestre joue toujours. Les troisièmes classes, jusqu'alors bloquées, arrivent sur le pont. C'est la cohue qui s'installe. Les hommes sauvés sont issus de la première et quelquefois de la deuxième classe. Les cabines sont plus proches des canaux. La loi de l'économie de marché. Ceux qui ont payé cher vivront. Pour les autres, ce sera bientôt la fin. À bâbord, le canot numéro 14, comme tous les autres, n'est pas chargé à pleine capacité. L'officier, à son bord, tire 3 coups de feu en l'air pour dissuader ceux qui voudraient y monter de force. C'est la cohue et l'orchestre joue toujours. Les canots de tribord sont tous plus chargés, avec un seul qui atteindra 70 personnes, soit sa pleine capacité. Alors qu'à bâbord, on ne compte qu'une trentaine de passagers à chaque fois, c'est une cinquantaine de l'autre côté. D'un côté, les hommes peuvent monter, de l'autre pas. 2h05. La situation est désespérée pour ceux qui sont restés à bord. L'orchestre joue toujours. Les opérateurs radio sont relevés de leurs fonctions par le capitaine. On aperçoit à 2h17, dans le fumoir de la première classe, l'architecte du paquebot. Le capitaine, lui, prend la barre. Des passagers restés à bord sautent à l'eau et rejoignent parfois avec succès les canots à la nage. Un homme y retrouve sa femme. 2h18. Les lumières du navire brillent une dernière fois et s'éteignent pour toujours. Dans la foulée, le Titanic se brise en deux dans d'atroces cris de souffrance entre la troisième et la quatrième cheminée. La partie avant coule instantanément, la partie arrière flotte, se remplit d'eau et finit par sombrer, elle aussi. Il est 2h20. Le Titanic est mort. L'orchestre ne joue plus. Frédéric, lui, a pu miraculeusement monter à bord du canot numéro 6. Il est sauvé. Qui nous occupe est consacré à l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire maritime, celle du Titanic, le géant des mers qui rencontra, au détour d'un soir sans lune, un iceberg qui fissura sa coque. 2h40 plus tard, le paquebot coule, ses 6 compartiments ayant pris l'eau. C'est la cohue, la catastrophe, un cataclysme. Les équipes gèrent mal le sauvetage, ne remplissent des canaux qu'à moitié, mais fort heureusement, notre héros, Frédéric, a pu accéder au canot numéro 6. C'est pour lui le temps de réaliser ce qu'il se passe une fois le calme revenu. Le temps de chercher les responsabilités aussi. Nous sommes le 15 avril 1912. Il est 2h25 du matin. Les passagers du canot dans lequel se trouve Frédéric, dont trois seulement, lui y compris, sont des marins de métier, regardent, stupéfaits, à l'horizon. Les derniers mètres de la coque du Titanic viennent de basculer dans les profondeurs de l'océan. Ça y est, c'est la fin. Pour tous, c'est le choc, la consternation. Et le canot numéro 6, comme les autres, va devoir maintenant s'en sortir, livré à lui-même au milieu des flots. Les trois marins, une fois le choc un peu dissipé, remarquent sur le côté une lumière chancelante, lointaine, à l'horizon. Un navire, très certainement un navire. La suite de leur nuit d'horreur va donc être employée à tenter de rejoindre cette petite luciole qui brille au loin. La lueur d'un espoir. Frédéric, comme pour attester de l'ampleur de la catastrophe pour ceux qui n'ont pas eu de place dans les canots, met sa main dans l'eau. Moins 2 degrés, il la ressort gelée. Les malheureux tombés à l'eau n'auront eu aucune chance. Une personne sur 5 mourra en moins de 2 minutes. Tous les autres vont périr en moins de 15 minutes. Une hécatombe. Une seule exception étonnante éclaircira ce triste bilan. Un boulanger qui a ingurgité durant la soirée une quantité folle de whisky va réussir à tenir, tenez-vous bien, près de 2 heures. 2 heures dans une eau glacée. Il avouera de lui-même que s'il s'en est sorti, c'est grâce à sa consommation excessive d'alcool. Dans le canot numéro 6, les rapports sont tendus. Un quartier maître du Titanic tient la barre. Il houspille Frédéric et l'autre marin qui, eux, manient les avirons. Il n'hésite pas non plus à recadrer fermement les passagers. Alors que certains l'enjoignent d'opérer un demi-tour pour aller chercher les survivants, car il reste près de 10 places disponibles, il refuse et poursuit sa route. Jamais, bien entendu, les marins, aussi fort soit-il, ne réussiront à rattraper la lueur aperçue après le naufrage. C'est finalement un autre navire, venu au contact de la zone, qui récupérera les passagers du canot numéro 6. Tout sain et sauf. Mais les épreuves ne sont pas terminées, non. Une commission d'enquête va maintenant mettre les survivants à rude épreuve. Frédéric n'est pas un homme à l'aise dans ce genre de situation, pas du tout. Il déteste les prises de parole en général, à vrai dire. Et cette commission d'enquête, censée faire la lumière sur l'affaire du Titanic, ne le met pas du tout en confiance. Oh, il n'est pas dupe. Les autres non plus. Tout est cousu de fil blanc. Personne ne sera inculpé. À ceux qui lui demandent si, selon lui, quelque chose aurait pu éviter la collision, il répond que l'absence de jumelles dans le nid de pie était suicidaire. Et alors que les mêmes questions reviennent plusieurs fois, il cesse de répondre. Le président de la commission, réalisant que le jeune homme ne sera plus loquace, finit par lui dire « Je suis votre obligé. Je pense que vous avez très bien énoncé votre témoignage, bien que vous sembliez vous méfier de nous tous. » En guise de réponse, un simple « merci » sur un ton aussi ironique qu'insatisfait sort de la bouche du jeune homme. En effet, il avait raison de ne rien attendre de l'enquête qui conclura à un stupide et malheureux accident portant au nu ceux qui auraient dû être questionnés s'ils avaient eu la vie sauve. En premier lieu, le capitaine Smith. Il est vrai que le barbu au poil aussi blanc que la glace a suivi la règle maritime qui stipule qu'un capitaine coule avec son navire. Mais tout de même, il a refusé d'écouter les avertissements répétés émanant des autres bateaux alentour et surtout, sa gestion du remplissage des canots est critiquable. On estime aujourd'hui que 500 vies de plus auraient pu être sauvées, soit un tiers des 1500 victimes. C'était pas rien, loin de là. Les pertes en vie humaine sont terribles. Aucun des 13 ingénieurs présents à bord, par exemple, ne s'en sont sortis, se sacrifiant au profit d'autres passagers. Beaucoup d'autres, voyageurs, lambda, musiciens, machinistes ou cuisiniers, sont morts en héros, permettant la survie de femmes ou d'enfants. La population a souvent critiqué l'attitude du patron de la compagnie qui a construit le navire, Ismay. Sa seule erreur n'a pourtant été que de s'en sortir. Et tout ce qu'on raconte autour de sa survie n'est qu'un tissu de mensonges. Il a bien participé au sauvetage et à la descente de nombreuses embarcations avant de monter dans l'une d'elles au tout dernier moment. La légende, dès le naufrage, va prendre le pas sur la réalité dans bien des cas. L'épave du Titanic, elle, a rejoint le fond des océans. Il faudra 73 ans pour la retrouver, enfin, et que des sous-marins équipés de caméras puissent l'explorer, permettre de mieux comprendre la tragédie, parfois même de retrouver des traces du passage de l'un ou de l'autre. Les objets remontés des abysses seront présentés dans des expositions dès la fin des années 80. L'épave, encore aujourd'hui, doit cacher bien des trésors. Elle trône toujours à 3821 mètres de profondeur au cœur de l'Atlantique Nord. La tragédie du Titanic nous rappelle qu'un excès de confiance, bien humain grâce au progrès de la technologie, est illusoire face aux forces déployées par Mère Nature. Elle nous rappelle également cette époque durant laquelle des millions d'Européens sont arrivés en masse aux États-Unis dans le but de construire une vie meilleure, remplie d'espoir et de nouveaux départs. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation du journaliste Philippe Meyer qui, en 1998, sur les ondes de France Inter, évoque avec humour cet excès de confiance des ingénieurs ayant fabriqué ce titan des mers. Le Titanic a été construit par des professionnels, l'Arche de Noé, par des amateurs. L'art de la synthèse et de l'ouverture à la réflexion. N'hésitez pas à nous donner votre avis. D'après vous, qui sont les véritables responsables du naufrage? Était-il réellement évitable? Je vous laisse vous faire votre propre opinion à ce sujet.